maïotique non féminin issu du grec ancien, qui désigne également un personnage de la mythologie grecque Maïa qui veillait aux accouchements. Pour le philosophe, c'est une technique qui consiste par le dialogue à amener une personne à mettre en forme ses pensées, ses connaissances. De là à reconnaître la maïotique socratique dans toutes les pratiques des thérapeutes, il n'y a qu'un pas, parfois très grand, qu'il faut se garder de franchir les yeux fermés. Les thérapeutes de diverses écoles, courants, sont aujourd'hui pléthores. Leurs formations ne sont pas toujours aussi poussées qu'elles devraient l'être, mais c'est à chacun de nous de veiller, de se renseigner, de juger vers qui se tourner. Pas forcément parce que l'on va mal, même si évidemment c'est un sujet de consultation, mais plus simplement pour retrouver plus de sens, de cohérence dans nos vies et dans nos relations. Une mise à jour régulière en quelque sorte. Eh bien, je vous propose de rencontrer une femme aussi rigoureuse que bienveillante et à travers elle, une technique particulière qu'elle utilise lors de ses consultations. Bonjour Béatrice de Montlivaud.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est que la Gestalt-thérapie ?
Alors la Gestalt, effectivement, c'est un nom un peu bizarre parce que déjà c'est un nom allemand, ça veut dire « forme » en allemand. Et l'idée derrière ce mot-là, c'est qu'on n'est pas tout seul un individu qui pousse indépendamment de son environnement. Donc en Gestalt-thérapie, on prend en compte la personne de façon vraiment globale, dans ce qui l'impacte, que ça soit intellectuel, corporel, émotionnel, spirituel, voilà. Et puis on va aussi essayer de mettre en forme, donc c'est là où on retrouve le mot forme, trouver un sens à ce qui nous traverse, des émotions, des difficultés.
Ça veut dire qu'on a un thérapeute en face de nous qui nous accompagne, une alliance avec le thérapeute?
Oui, alors... En gestalt-thérapie, on n'est pas un thérapeute comme dans certains films où planqué derrière le canapé, tournant le dos au patient. Non, on est en face, on regarde la personne et on est vraiment présent. C'est-à-dire que ce que dit la personne nous fait un impact qu'on peut traverser, on peut être ému et le dire.
À l'origine de cette thérapie, il y a une personne, un homme. Ce serait bien qu'on revienne sur ses origines-là.
Oui, alors c'est Fritz Perls. C'était un juif qui vit en Allemagne, qui a quitté l'Allemagne au moment des persécutions nazies. Il est parti aux États-Unis. C'est pour ça que la Gestalt s'est surtout déployée là-bas avant de revenir en Europe. Et aujourd'hui, c'est vraiment un courant important des thérapies humanistes.
Il y avait quelque chose autour de Fritz Perls, l'expression directe. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors Fritz Perls, c'était une personnalité très impactante, charismatique. Il pouvait interpeller ses patients, leur dire « tu es un enfant quand tu dis ça ». Y aller de façon très forte pour obtenir du changement. Ça a permis de créer de la gestalt-thérapie. Ça interdit pas aujourd'hui d'avoir des approches plus douces, plus empathiques en même temps.
Quels sont les champs d'application de cette thérapie ?
Alors, ils sont très larges, hein, parce qu'on peut recevoir des personnes qui ont des difficultés d'ordre médical, hein, qui ont besoin d'un médecin ou d'un psychiatre, par exemple des borderline, mais qui ont aussi besoin en plus d'un endroit où ils peuvent être accueillis, déposer ce que c'est que de vivre cette pathologie et puis les autres éléments de leur vie. On peut accueillir des personnes qui ont juste une épreuve de vie auquel ils doivent faire face, une séparation, un deuil, des difficultés au travail, tout le panel des névroses de tout un chacun, hein, l'anxiété, la dépression, la solitude, et puis aussi des personnes qui vont bien et qui sont juste curieuses de savoir comment elle fonctionne et est-ce qu'elle pourrait avoir une vie plus épanouie.
Vous n'êtes pas psychologue, ni psychiatre, ni psychanalyste. Vraiment, quelle est la différence entre d'autres thérapies holistiques ?
Oui, alors c'est au cœur de la Gestalt, c'est comment être en contact. Donc la façon d'être en relation, bien souvent ça explique nos difficultés. Les difficultés des personnes qu'elles nous amènent sont bien souvent d'ordre relationnel. C'est à la fois le problème et c'est aussi la solution. Et c'est comment on est en relation dans le cabinet du thérapeute qu'on va réussir à faire bouger des choses qui étaient peut-être un peu figées avant, parce que on se construit un peu parfois en devenant en mode automatique sur certaines façons de réagir aux choses. Et ça peut nous convenir un temps, et puis à un moment, ça ne nous convient plus.
Donc c'est une thérapie de la relation au départ.
Oui, c'est vraiment une thérapie de la relation. C'est vraiment ça le cœur de la gestalt. C'est comment je suis en relation avec l'autre et avec moi-même, comment je me regarde moi-même aussi. C'est-à-dire, je peux être en colère avec mon voisin, mais je peux aussi être en colère avec moi-même.
Venir que travailler sur soi-même, c'est peut-être le point de départ de vos clients, comment dites-vous ?
Alors, on peut dire client parce que les personnes payent et elles attendent un résultat, mais on peut aussi dire patient parce que on est là pour leur faire du bien. Donc, on peut dire l'un ou l'autre, peu importe.
En combien de temps on devient thérapeute, gestalt thérapeute ? Juste pour différencier d'avec un psychologue, parce que c'est pas la même chose. Et en même temps, vous me parlez de névrose et donc vous accueillez des gens qui ont ce type de pathologie.
Alors, on est tous névrosés, hein, donc bonne nouvelle. Après, le psychologue, il est passé par la fac. Le thérapeute, il a suivi une école de thérapie. Donc moi, j'ai suivi l'école parisienne de gestalt. En fait, ça consiste d'abord par rejoindre un groupe où on vit la gestalt. On commence pas par apprendre, on commence par l'expérience, par savoir ce que c'est et ce que ça nous fait. Parce que avant de prétendre pouvoir apporter quelque chose aux autres, il faut être un peu au clair avec ses petites problématiques personnelles et pas impacter l'autre avec ça. On en a tous, hein, mais quand on est thérapeute, il faut savoir ne pas impacter l'autre de ses petits problèmes. Et puis, après, on rentre dans un parcours de formation même, hein, qui reste très expérientiel, et qui, en l'occurrence pour moi, ça a duré 4 ans.
Ça ressemble effectivement à la psychanalyse où il faut soi-même avoir suivi une analyse avant de prétendre le faire.
On est quand même assez différents. Dans la psychanalyse, Freud il a établi une grille théorique avec les pulsions, l'Œdipe, etc. Il va regarder le patient avec cette grille. En gestalt thérapie, on ne fait pas ça. La personne, elle arrive avec sa façon d'être et on va le prendre tel quel. Et puis aussi, le thérapeute va beaucoup s'impliquer, alors qu'en psychanalyse, le thérapeute est plus en recul. Donc il y a une différence de ce côté-là, mais c'est vrai qu'il faut le vivre avant de le pratiquer.
Et le thérapeute, en face à face, c'est un dialogue. On est dans la relation, c'est peut-être ce qui vous différencie d'autres thérapies holistiques, comme la sophrologie caïcédienne, où on est là pour donner des outils et que l'autre va s'en emparer.
Oui, on est vraiment dans l'accueil inconditionnel de la personne, dans une posture bienveillante, mais c'est vraiment un échange. C'est-à-dire, la personne vous amène quelque chose et par le questionnement, on peut arriver à l'aider à aller un peu plus en profondeur que ce qu'elle ferait toute seule ou par de l'introspection. Donc le questionnement du thérapeute aide la personne à oser aller explorer des parties d'elle-même qui peuvent être un peu souffrantes et un peu difficiles si elle essaye d'avancer toute seule, par exemple.
Et ce cheminement passe autant par la tête que par le corps. Il y a aussi ce travail, cette harmonie entre corps et esprit commun à d'autres thérapies, d'ailleurs.
Oui, il y a l'harmonie, mais il y a aussi pouvoir reconnaître la place de chaque chose. Bien souvent, on fonctionne avec un cerveau à 200 à l'heure, qui rumine les choses, qui va nous donner des conseils, un peu comme notre entourage aussi, qui nous dit « t'es timide, tu devrais parler plus », etc. Il y a un moment où ça va pas. Et où, en fait, si on n'arrive pas à changer, c'est parce qu'on n'est pas allé prendre en compte l'aspect émotionnel, corporel de ce qu'on vit. Et en thérapie, on va aller regarder donc d'un côté le côté intellectuel, cérébral, qui peut expliquer pourquoi on est comme ça, mais aussi l'aspect ressenti et corporel, émotionnel, qui, lui, est plus transformateur. Donc ça, c'est très important, cet aller-retour entre les deux. Il n'y a pas un élément qui prend la place sur l'autre.
C'est aussi, dans cet accueil inconditionnel, ne pas déterminer une personne par son passé ou...
Oui, alors surtout, moi, je suis motivée par une sorte de vision positive de l'être humain. Moi, je suis persuadée que, quelles que soient mes difficultés, quel que soit mon âge, j'ai la capacité à bouger et à évoluer.
Vous êtes-vous intéressé à cette méthode-là plutôt qu'à une autre? C'est le hasard. Comment vous avez rencontré la Gestalt-thérapie?
Alors, c'est vraiment par hasard au départ. Par mon boulot, à l'époque, je travaillais dans une grosse boîte. J'ai été envoyée à une formation qui était animée par une psychologue que j'ai trouvée extraordinaire. Et à la fois en... par la façon dont elle communiquait avec notre groupe, avec un niveau de profondeur auquel j'étais pas habituée, et aussi par ce qu'elle a pu débloquer chez certains assez facilement en termes de transformation. Il se trouve qu'après ces 3 jours de formation, je suis allée la voir et je lui ai dit « Mais comment on fait pour être comme toi, en fait ?» J'ai eu cette question-là. Et c'est elle qui m'a dit « Si ça t'intéresse autant, tu devrais aller voir du côté de la Gestalt. » Et à ce moment-là, j'ai poussé la porte de l'école parisienne de Gestalt.
Et vous avez refermé la porte du travail où vous étiez ?
Et j'ai refermé la porte du travail où j'étais. Par ailleurs, je suis venue en Bourgogne, donc j'ai pu m'installer ici.
Vous notez vraiment un avant et un après Gestalt ?
Alors, avant, après, moi, je suis jamais très à l'aise avec les grands discours un peu de transformation complète, un peu comme si on avait une vie avant, on était dans le brouillard et après, tout d'un coup, la lumière arrive. C'est pas trop mon truc. Par contre, oui, une transformation et que moi, je l'ai vécue et que j'ai l'impression d'avoir une vie plus complète, plus congruente avec qui je suis vraiment, plus épanouie aussi, où je m'accepte plus comme je suis, oui. Une évolution dans ce sens-là, clairement, la Gestalt m'a permis d'évoluer de cette façon-là.
Est-ce que ça veut dire qu'on donne plus de place ou on s'accorde plus de temps pour une introspection, plus une conscience plus aiguisée des choses ?
Oui, alors après, ça ne veut pas forcément dire plus de temps comme si je mettais une heure dans mon agenda pour ça. Moi, je me rappelle une chose qui a été importante pour moi, c'était j'avais une vie un peu à 100 à l'heure, avec beaucoup d'actions, un boulot, des enfants, etc. Et puis, j'ai commencé à être vigilante à comment je respirais dans la rue, dans les moments perdus, en fait, quand on va acheter le pain ou des choses comme ça, où tout d'un coup, pendant cette petite marche, je faisais attention à comment je respirais, qu'est-ce que je ressentais, est-ce que je me sentais bien, est-ce que j'avais une petite douleur ici, est-ce que je me sentais tendue. Juste un peu de regard sur soi, de vigilance sur comment on est.
Ça, c'est très sophrologue aussi. C'est une façon de revenir au corps aussi, quand tout va vite et s'emballe autour de nous.
Et en ayant ce regard, cette conscience de ce qui se passe en nous, après, peut-être une émotion va revenir et on sera au cœur de ce qui est là pour nous. Ça ne sera pas quelque chose que notre cerveau aurait essayé de nous imposer.
Oui, c'est être dans une écoute aussi bienveillante de soi-même et des autres. Ça marche ensemble.
Oui, absolument. Et parfois, on pourrait avoir en tête de « non, mais tu te regardes le nombril, c'est quoi cet égoïsme, etc. » Mais ce n'est pas du tout ça l'esprit. C'est juste être clair avec qui on est, être OK avec soi, et ça permet de s'ouvrir à l'autre. Donc c'est pour moi c'est le contraire de l'égoïsme. C'est être au clair avec ce qui nous anime pour pouvoir après se tourner vers les autres et vers le monde.
C'est un peu comme un instrument de musique, s'il est désaccordé, ça va être très vilain lorsqu'on est dans un orchestre. C'est un peu ça l'image.
Oui, où on va se comporter par des éléments qui nous dépassent. Vous savez, c'est comme l'exemple du type au boulot, il se fait engueuler par son patron, il n'ose pas réagir, il ne sait pas quoi en faire, il rentre chez lui, il va engueuler sa femme ou ses enfants. Alors que si... Alors, c'est une chose de réagir vis-à-vis du patron, mais en tout cas, d'accueillir la frustration ou les difficultés professionnelles, leur donner une place... Ça permet justement que ça n'envahisse pas les autres éléments de sa vie. Et c'est là où on va évoluer vers un rapport à l'autre qui va être plus juste.
Ça, c'est la grande différence avec des thérapeutes comme vous êtes qui ont été formés, qui ont cette posture-là. Et parfois, des choses que l'on vend en disant presque, c'est presque une méthode Coué bon marché de se dire on met de côté. Non, on se laisse traverser par les émotions.
Oui, et c'est pour ça que le thérapeute, il peut aider, c'est-à-dire que se laisser traverser par une émotion de joie ou de plaisir, en fait, ça c'est relativement facile, mais parfois, quand elles sont plus difficiles, plus lourdes, plus anciennes, c'est pas toujours évident, et donc le faire avec un thérapeute, ça permet d'oser y aller sans non plus se mettre en danger.
Et peut-être aussi décomplexer, c'est-à-dire de, bah oui, on peut retomber demain et se remettre en colère et se laisser déborder par ses émotions. Mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave du tout.
Oui, oui, ça renvoie aussi à notre société où, en fait, on est envahi de sortes d'injonctions à vivre d'une certaine façon, à ressembler aux personnes qu'on voit sur Instagram, à être performant au travail, à l'école, etc. En thérapie, il y a une chose que souvent les gens disent après un certain temps. En fait, j'ai réalisé que c'était OK d'être comme je suis. S'accepter comme on est et se dire « j'ai pas envie de faire ça. Non, dans ma carrière, j'ai pas envie d'aller vers ça. Les gens qui me plaisent, ils sont plutôt comme ça. C'est OK d'être comme on est. » Après, ça devient contagieux. Quand on s'accepte comme on est, on va aussi accepter les autres comme ils sont et ça va permettre d'avoir des relations plus authentiques et moins de frimes ou d'apparence, donner le change, etc. On va mettre ça un peu de côté. Ça fait du bien dans le monde d'aujourd'hui. Sisyphus, peered into the mist, the stone stole from the precipice, paused. Did he jump or did he fall as he gazed into the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this jest? Let the rock roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago. Let it roll, let it crash down low. See my house down there, but I lost it long ago.
Dans la période que nous vivons, qui est quand même assez inédite, oui et non, parce que des crises et des épidémies, il y en a toujours eu, mais bon, là, on la traverse. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à ces personnes qui sont dans la tourmente un peu, qui ont peur ou dans la lassitude ?
Alors ça, c'est une grande question. Alors étonnamment, il y a quand même beaucoup de personnes qui, au fil des confinements ou des difficultés rencontrées, ont réussi à trouver de nouvelles façons de faire. Par exemple, à se remettre un instrument de musique ou à faire du dessin ou à bouquiner, etc. À nourrir du changement en allant chercher quelque chose de positif.
Et en allant le chercher chez soi, c'est ça qui est merveilleux finalement dans cette crise. C'est pas dehors, c'était chez soi.
Oui, c'est ça. C'est quelle est ma solution à moi par rapport à ce que je subis de mon environnement, c'est-à-dire je peux plus aller au théâtre, mettons, si j'adorais ça. Et ben, qu'est-ce que je peux remplacer ça par quoi? Qu'est-ce que je peux faire de plus, de différent? Comment je vais mettre de la vie malgré ce contexte-là?
C'est ce qu'on trouve aussi dans la philosophie. C'est une philosophie de vie aussi, un art de vivre, on peut dire, la Gestalt.
Alors, je sais pas si j'irai jusque-là. Pour moi, c'est une posture pour, en fait, mettre de côté un peu tout ce qui peut nous parasiter, nous prendre la tête, entre guillemets, pour se recentrer sur l'essentiel.
Et la question du temps, de l'âge, on l'aborde différemment, du coup?
Oui, absolument. Alors, en même temps, on voit bien, en fonction de l'âge des personnes qui viennent nous voir, en fait, comme les préoccupations peuvent évoluer, mais quelque part, plus le temps passe, plus la question de l'épanouissement de soi, trouver le sens de sa vie, devient prégnant. Bien souvent, entre 20 et 40 ans, on va être beaucoup dans la réalisation, dans le faire, et on va pas avoir beaucoup de temps, y compris pour s'interroger sur soi-même. Mais au bout de quelques années, quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? C'est pas dans 30 ans que j'y trouverai la solution, c'est maintenant.
Quel est l'âge des personnes qui viennent vous voir? Plutôt des hommes, plutôt des femmes?
Un petit peu plus de femmes, sans doute parce qu'il y a moins de freins à l'idée d'aller consulter quelqu'un. Pas mal de jeunes, lycéens ou étudiants, avec beaucoup de problématiques, malheureusement, d'anxiété. Et puis après, tout le panel de l'âge adulte, retraité, grand âge.
Si on veut s'intéresser de plus près à la Gestalt, il y a des livres, il y a des façons d'aller chercher de l'info. Comment est-ce qu'on fait?
Oui, alors il y a beaucoup de livres. Moi, j'aime bien recommander un auteur que j'adore qui s'appelle Irvin Yalom. C'est pas vraiment un gestaltiste, mais il utilise beaucoup la Gestalt. Et il a écrit des romans autour d'histoires de thérapie. Et donc, on en apprend sur le sujet, sur ce que c'est qu'être thérapeute. Et en même temps, il y a le suspense d'un thriller. Donc, c'est vraiment une façon géniale de se plonger dans ce qu'est la thérapie et la Gestalt en particulier.
Je vous laisse le mot de la fin, comme ça, que vous avez envie de lancer aux auditeurs.
Bah là, je vois un ciel bleu, donc l'extérieur. Voilà, c'est ça qui me vient.
Merci Béatrice de Monliveau.
Merci à vous.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps et qu'on ne les malmène jamais quand ils prennent. promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.